Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de Vivante Église. Je vous propose un deuxième volet consacré à ce grand prophète et cette figure de l'Ancien Testament. Il se prénomme le prophète Jérémie. Je recevais la semaine dernière un enseignant de la faculté de théologie de Toulouse, en paroisse également sur la paroisse du Saint-Esprit et de Saint-Paul des Nations pour le diocèse de Toulouse. Bonjour Père Cyprien Comte.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes toujours enseignant, vous êtes toujours un spécialiste de ce prophète Jérémie, qui n'est pas qu'un prophète de malheur, hein. C'est un prophète qui est un vrai prophète, hein, et fidèle.
Oui, un homme qui a été saisi par Dieu.
Brûlé, homme, passionné.
Oui, ça vraiment, et on va le voir, hein, mais et qui a à la fois annoncé le malheur à Jérusalem et aussi une espérance. Et on a vraiment les deux faces de la mission des prophètes.
Donc la mission du prophète, la mission de Dieu aussi à travers chacun de ces prophètes. Dieu qui va parfois donner quelques châtiments à son peuple.
Et oui, dans l'Ancien Testament.
Châtiments pédagogiques. Hein.
Mm-hmm. Ouais. Il y a des châtiments pédagogiques, et quand Dieu inflige effectivement une punition à son peuple, alors ça nous surprend un peu. Mais c'est
rude,
vraiment pour l'amener,
c'est
pour l'amener à guérir, en fait. Et il est vrai aussi que dans l'Ancien Testament, parfois, on parle de châtiments pour des peuples étrangers qui aboutiront à leur destruction. Mais pour Israël, pour Juda, il n'en va pas de même. Alors ça demande d'être éclairci théologiquement, certainement, parce que, en fait, Dieu aime tout le monde et pas seulement un seul peuple. Mais en effet, dans la manière dont les auteurs de l'Ancien Testament le présentent, on voit que quand Dieu punit son peuple, il en laisse toujours quelques-uns subsister par qui un renouveau viendra. Et il y a toujours une espérance, même dans les pires situations politiques, religieuses, sociales, le Seigneur n'abandonne jamais vraiment son peuple, alors que le peuple, lui, est souvent très à distance de ce que le Seigneur voudrait.
Peuple infidèle.
Oh là.
Oui, oui, oui. Alors au programme aujourd'hui, dans ce deuxième volet de Vivante Église sur ce prophète Jérémie, est-ce qu'on peut introduire, aller plus loin, en profondeur, pour bien percevoir cette mission de ce prophète de l'Ancien Testament, sans perdre de vue aussi le monde d'aujourd'hui, l'actualité aussi d'aujourd'hui, qui est une actualité qui brûle, hein, un monde qui est un peu en feu.
La mission.
Un monde qui attend aussi ses prophètes.
Et qui a du mal à les reconnaître, bien sûr. Ouais, mais comme à l'époque, ça n'est pas nouveau. En fait, autour de l'an 600, les gens auraient sans doute dit que c'était une période de crise aussi, et à juste titre. La mission de Jérémie, elle est résumée, en quelque sorte, nous en avons dit un mot, hein, dans le texte qui raconte sa vocation. Le chapitre 1, c'est facile à trouver, hein, voyez. Parfois il y a des prophètes dont la mission, la vocation est résumée, mais pas forcément tout au début. Voyez, si vous voulez la fameuse vision inaugurale du ministère d'Isaïe, il faut aller chercher au chapitre 6 d'Isaïe. Alors les participants réguliers aux liturgies chrétiennes ont en tête le chant, le cri des séraphins, n'est-ce pas, saint, 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 le Seigneur, ben voilà, c'est au chapitre 6 d'Isaïe, mais là, c'est plus simple pour nous.
Le livre d'Isaïe qui arrive dans la Bible juste avant hein, le
un
livre
grand,
de Jérémie.
Long livre de 66 chapitres, hein, effectivement, oui. Et on a Isaïe, Jérémie, et puis un autre grand prophète qui suit Jérémie, c'est Ézéchiel. Quelquefois, il y a des petits livres qui sont intercalés, mais en tout cas, dans Jérémie, au chapitre 1, on a ces paroles magnifiques qui sont rapportées et qui s'adresse aussi à chacun de nous. Et ça vaut la peine de les entendre, je crois, à frais nouveaux. Avant même de te modeler in utero, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein maternel, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Jérémie, peut-être dans la difficulté, rappelle la manière dont Dieu est venu le chercher. Et en fait, ça nous parle parce que nous savons dans la foi les théologiens nous disent aussi que le projet de Dieu sur chacun, un projet d'amour, un projet qui montre pour quelle mission Dieu nous a choisi. En fait, ce projet s'enracine dans un acte d'amour. On a ça dans Osée chapitre 11 aussi. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et ici, dans Jérémie, on comprend que le Seigneur nous a choisi avant même que nous voyions le jour. Alors ça aussi, ça parle à un certain nombre de débats contemporains, évidemment. Nous voyons que un petit enfant, et même avant même d'être dans le sein de sa mère, le Seigneur a choisi Jérémie comme il a choisi et comme il choisit encore aujourd'hui chacun de nous. Et je trouve que c'est profondément réconfortant, parce que nous comprenons que ça n'est pas uniquement parce qu'on est utile, ça n'est pas uniquement parce qu'on est efficace, ça n'est pas uniquement parce que le monde vous regarde comme apportant une contribution à la vie de la société, que vous avez une valeur aux yeux de Dieu. Et Jérémie nous dit cela en parlant de sa propre vocation. On voit aussi qu'il résiste parce qu'il ne se croit pas capable. Combien de fois est-ce que nous comprenons que Dieu, que l'Église, que la société attend quelque chose de nous, et nous nous disons, mais en fait, je n'ai pas les compétences requises, je n'ai pas les aptitudes requises. On dit ça dans les liturgies d'ordination, n'est-ce pas? Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Et Jérémie dit exactement le contraire, il dit, mais je ne sais pas parler. Et le Seigneur va le confirmer dans cet appel. Je ne développe pas, je laisse les auditeurs aller lire ce
aller
texte magnifique.
Un peu, travailler, goûter.
Voilà, même, dans Jérémie chapitre 1, c'est vraiment très accessible. On peut dire...
Oui. Et on perçoit ce choix, enfin cette élection de Dieu, Dieu qui prend soin dès avant cette naissance de Jérémie. Donc une présence de Dieu... dès ce moment aussi de la conception, donc
oui,
dès le
ça.
Début de
peut-être
la vie,
même avant la conception,
et peut-être même avant
le projet de Dieu, en fait, depuis toujours pour chacun de nous, comme sur ses prophètes les plus remarquables. Voilà, il n'y a pas une vie qui vaille plus qu'une autre. Et est-ce que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit que les saints dans le ciel nous serons peut-être surpris de voir finalement quelle vie a eu le plus de fécondité, si l'on peut comparer, mais je crois qu'elle dit quelque chose comme ça. Et elle dit que c'est sans doute certaines des vies les plus cachées qui ont le plus de valeur aux yeux de Dieu. Pardon, je dis ça avec des guillemets, bien sûr, toute vie a une valeur immense et infinie aux yeux de Dieu. Je trouve que c'est profondément réconfortant, dynamisant, et puis ça éclaire aussi notre réflexion sur la dignité humaine aujourd'hui, hein, de bien des façons. Notamment, aux deux extrémités de la vie, on sent qu'on touche à des questions très contemporaines, bien sûr.
Tout à fait.
Le prophète Jérémie, en fait, reçoit sa mission, on voit en Jérémie 1, chapitre 1, verset 10, qu'il va être envoyé, alors qu'on a une série de six verbes assez importants, qui montrent un peu les deux versants de ce que le prophète est appelé à faire. Arracher et renverser, exterminer et démolir, alors sans doute il faudra lire cela au sens figuré, mais aussi, et ce sont les deux derniers verbes, bâtir et planter. Pour les lecteurs assidus de la Bible, ils reconnaissent des mots qui ont trait au domaine du bâtiment et au domaine agricole, qui sont les deux grands secteurs d'activité économique à l'époque. Vous voyez, les services, le tertiaire, sont un peu moins développés, même si ça existe, hein, le commerce, évidemment. Mais, on va retrouver dans six autres endroits, si ma mémoire est bonne, du livre de Jérémie, cette série de verbes avec quelques variantes, mais comme l'action de Dieu lui-même. Et donc, nous comprenons que ce que fait le prophète, en fait, c'est ce que Dieu fait. Alors, on pourrait sans doute développer cela longuement. Je voudrais peut-être, si vous voulez bien, sur la mission...
Oui, il y a aussi, permettez-moi aussi, la mission prophétique de Jérémie, l'attitude, la posture du prophète, une posture aussi avec un cœur doux et humble, et l'humilité, je voulais relever peut-être, de tout prophète et de tout missionnaire, et en particulier de ce prophète que nous découvrons... avec vous.
Il y a toujours cela, vraiment, chez les amis de Dieu. On dit que Moïse,
des
encore
amis
lui,
de Dieu,
Moïse était le plus humble des hommes que la terre ait porté. Et en effet, pour être un prophète du Seigneur, alors Moïse est l'archétype, hein, l'exemple par excellence Il faut effectivement avoir l'humilité de porter la parole d'un autre. Jérémie en est un excellent exemple. Il va rencontrer l'adversité, mais même intérieurement, il sera tenté d'arrêter de porter la parole de Dieu. Ça vaut peut-être la peine d'ailleurs de jeter un œil au chapitre 20 du livre de Jérémie, où on est tout à la fin de ces poèmes, ces prières autobiographiques, en quelque sorte, où Jérémie nous livre le fond de son âme. Chapitre 20, verset 7, en fait, il se plaint à Dieu qui lui a confié sa mission. C'est poignant ce texte. « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Et puis il dit combien les gens se moquent de lui, et il est obligé de crier en proclamant la dévastation. Et nous sommes donc chapitre 20, verset 8. « La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir. » Mais je n'ai pas pu. Je trouve très impressionnant de voir les obstacles, même intérieurs, que sa mission a rencontrés. La plainte, la franchise avec laquelle non seulement il se plaint à Dieu, mais en plus il nous le dit, nous l'avons dans le livre de Jérémie. Et finalement, nous savons qu'il a repris son ministère. Alors je trouve que c'est très beau parce que dans les ministères pour l'Église, il y en a de différents types. Hein, et le pape François nous donne aussi des occasions de voir que le ministère est un petit peu plus large que ce qu'on pense parfois. Il peut y avoir la tentation de quitter son service, de quitter le ministère. Et Jérémie nous donne un bel exemple de la plainte qu'on adresse à Dieu dans ce cas-là, et puis de l'issue qui me semble être la bonne dans l'immense majorité des cas, enfin je crois, j'espère, qui est finalement qu'on dit, mais en fait, le Seigneur m'a peut-être un peu forcé au début, mais il faut que je choisisse aujourd'hui librement de correspondre au don qu'il m'a fait. Un peu comme est-ce que c'est la première à Timothée où l'auteur écrit « Ravive en toi le don que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains ». Vous voyez, c'est vraiment une belle grâce pour nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu, que nous soyons dans un service spécifique dans l'Église, ou bien que nous nous disions « Mais en fait, moi, mon ministère, c'est la prière, je ne peux pas faire autre chose aujourd'hui. » Sans doute, parmi les gens qui écoutent la radio, il y a des gens qui se disent « Mais moi, je ne suis pas un prophète. » Allez savoir, les prophètes sont aussi des gens qui intercèdent. Peut-être on n'aura pas le temps de développer cela, mais en fait, c'est vraiment une manière de porter la parole de Dieu, d'y répondre.
Au fond, oui, j'ai presque envie de vous poser cette simple question. Si vous deviez donner une définition du prophète, c'est quoi ?
Le prophète ?
Le prophète, et le prophète d'aujourd'hui.
Le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est assez convaincu de ce qu'il a reçu du Seigneur pour être capable de le porter contre vents et marées. Jérémie a été mis au pilori, jeté dans une citerne. Et puis ensuite, il avait dit aux gens, soumettez-vous au roi de Babylone, ne vous alliez pas à l'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe une fois que les rebelles ont assassiné le gouverneur Godolias? Il s'enfuit en Égypte en emmenant Jérémie de force avec eux. C'est dire que vraiment cet homme n'a pas fait ce qu'il voulait de sa vie, et pourtant il a fait ce qu'il devait, il a fait ce qui... Il a correspondu à la lave qu'il avait dans le cœur, c'est un peu
donc
ce que nous venons
obéi,
de dire.
Le prophète,
il a obéi à la parole de Dieu plus forte que tout. Et j'aime bien faire le lien avec saint Paul, qui d'ailleurs raconte sa vocation en faisant référence à la vocation de Jérémie, parce que saint Paul, les gens nous disent quelquefois, mais saint Paul, est-ce qu'il était libre? Il a été terrassé sur le chemin de Damas, il a vécu une expérience mystique incandescente. Il n'a pas eu le choix. Et c'est vrai. Cependant, il a eu le choix après. Et il a passé sa vie à correspondre à à ce coup de poing qu'il avait reçu, en quelque sorte. Vous savez, l'autre jour, j'ai la chance de travailler à la formation des diacres permanents dans notre province de Toulouse. Et l'autre jour, il y avait un diacre de Carcassonne, parce qu'on a les diacres de Carcassonne aussi qui vient. Donc, il est déjà ordonné et qui terminait l'homélie. Donc, c'était aussi un exercice. Hein. On regardait l'épisode des marchands du temple. Et il disait, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, cet évangile m'a donné un bon coup de fouet. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on se figure Jésus avec un fouet fait avec les cordes, même si rien ne dit dans l'évangile qu'il ait frappé qui que ce soit avec ce fouet. Et ce diacre continuait en disant « Mais moi, l'évangile m'a donné un bon coup de fouet ». Et en fait, je crois que c'est ça qui se passe. De temps en temps, dans notre vie, nous sommes comme Jérémie, nous sommes comme saint Paul. Nous recevons comme un coup.
Un électrochoc.
Parce que le Seigneur ne recule pas devant... une certaine violence, c'est vrai. Et pourtant, dans sa douceur, il nous laisse toute notre vie pour nous rendre compte de cette fois où il nous a un petit peu forcé la main, c'est vrai. Mais il nous laisse libre ensuite de correspondre ou non à cette expérience mystique.
Vous décrivez très bien aussi, finalement, cette présence du Père. Hein. Ce Père qui corrige parfois. Hein. On parlait de ces châtiments pédagogiques de Dieu.
C'est ça, c'est pas trop à la mode. Mais...
Non, c'est pas à la mode. Hein. Et ça sera peut-être jamais à la mode, Père Cyprien Conta.
Et pourtant, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime et parce qu'il est meilleur que le meilleur des pères.
Alors, on parlait du Père, on parlait aussi de, je reviens à ce prophète après saint Paul, ce prophète Jérémie, dans l'attitude profonde du prophète. Et prenons ce prophète Jérémie, puisque vous le dévorez, vous l'étudiez vous-même depuis plus de 15 ans aujourd'hui, Père Cyprien Conte, est-ce qu'on peut parler d'une autorité aussi du prophète dans ce ministère?
C'est certain. À la fois, il est sous l'autorité de la parole, il dit bien, et on a cette lecture hein, dans la liturgie des heures, « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, parce que elle était ma joie et le délice de mon cœur. » Et donc, le prophète est soumis à Dieu, même s'il interprète aussi ce que Dieu lui donne. Et il a également, vous avez raison de le souligner, Nathalie, il a une véritable autorité qui fait que, parce qu'il est investi d'une mission divine, il ne tremblera devant personne. Et dès la vocation du prophète Jérémie, dès le chapitre 1 du livre, on y revient sans cesse, vous voyez, le Seigneur lui dit déjà, ne tremble pas devant ceux à qui je t'envoie. Et il dit même, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Alors quelquefois, nous pouvons nous sentir timides, nous pouvons nous sentir insuffisants, mais comme lui, comme Jérémie.
On peut se sentir dans la crainte.
Bien sûr, on peut se sentir aussi incapable de parler. Eh bien, le Seigneur qui choisit ses porte-paroles, qui choisit ses intercesseurs, leur donne à la fois l'intimité avec lui, leur donne l'énergie nécessaire et leur fait aussi, comme à Jérémie et quelques autres personnages du livre, il leur fait la promesse qu'ils sauveront leur vie. J'aime beaucoup, en fait, c'est un refrain dans toute la Bible. Qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie ? Ne crains pas. Et il dit aussi, le Seigneur est avec toi. C'est la grande promesse de Dieu à tous ses prophètes et à toutes les personnes qu'il envoie en mission. Qu'est-ce que dit Jésus tout à la fin de l'évangile de saint Matthieu aux disciples ? Je suis avec vous tous les jours. Eh bien, si l'on lit la fin de la vocation du prophète Jérémie, Dieu parle de tous les adversaires, les puissants hein, du royaume de Juda. Ils lutteront contre toi, Jérémie, mais ne pourront rien contre toi. Pourquoi ? Le Seigneur le dit tout de suite. Car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. On n'a pas besoin d'avantage. La promesse de Dieu, qui ne manque jamais à sa parole, est la force du prophète.
Exactement. Père Cyprien Conte, c'est passionnant. J'espère que nos auditeurs aussi écoutent avec attention aussi tout ce qui se délie autour de ce prophète Jérémie. Je vous propose de vous retrouver juste après cette plage musicale. À tout à l'heure.
Seigneur, vous ses élus, acclamez-le offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière. Vous qui l'aimez, célébrez son règne sur l'univers. Ô lumière du monde, sur le monde endormi, sur les hommes perdus, se lèvera l'étoile radieuse du matin. Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore. L'aube nouvelle enfin se lèvera sur les nations. Ô lumière du monde, par amour des pécheurs et pour notre salut, Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, a resplendi, astre dans vos lumières sans déclin. Lumière du monde.
Présence. Vivante Église. Nathalie Cardon.
Suite de ce rendez-vous Vivante Église, et c'est un deuxième volet, puisque la semaine passée, nous consacrions aussi une émission à ce beau, grand prophète fidèle, le prophète Jérémie. Père Cyprien Comte, on vous retrouve, et on retrouve surtout ce livre que nous conseillons. Donc, relisez ce prophète Jérémie. Quels sont les thèmes abordés tout au long du livre de Jérémie, Père Cyprien Comte ?
Quelle richesse dans ce livre ! C'est difficile de résumer,
oui,
mais il me semble que on pourrait... Je suis très sensible, en fait, à la manière dont Dieu appelle son peuple, notamment par la voix des prophètes. Et je suis sensible également à la réponse du peuple. Alors malheureusement... À l'époque de Jérémie, la catastrophe menace, on l'a compris, hein, l'Empire babylonien, les armées s'approchent de Jérusalem. Et en fait, Jérémie leur dit aux gens de Jérusalem et de Juda, il y a une cause à ce malheur qui menace, et c'est l'apostasie. Il me semble que c'est le premier point qu'on pourrait développer, parce que c'est tellement important. On a dit que Jérémie est un prophète de malheur, et c'est vrai, mais c'est parce qu'il constate que le peuple est rebelle. Il y a, à partir du chapitre 2...
Un peuple avec la nuque raide.
Oui, alors c'est impressionnant comme l'expression est présente hein, dans l'Ancien Testament. L'image, alors ça ne nous fait pas plaisir d'entendre cela, l'image de la révolte qu'utilise le prophète Jérémie compare Jérusalem et Juda à une femme qui est infidèle à son mari. Alors c'est une image qui est évidemment dissymétrique, hein, parce que on dit mais finalement et le mari, alors sauf que le mari est la figure de Dieu. Alors bon, évidemment lui il est fidèle, et par contre Israël qui est symbolisé par l'épouse a commis toutes sortes de péchés. Alors je passe sur le vocabulaire et les détails parce que ça n'est pas très ragoûtant. Et d'ailleurs Jérémie est très très dur. Hein. On a eu l'occasion avec mes collègues spécialistes de la Bible, avec Madame Anne-Marie Pelletier, dont je recommande de lire les livres, hein, et aussi le chemin de croix qu'elle avait écrit pour le pape Benoît XVI à l'époque. Hein. Elle nous avait expliqué que les figures du féminin chez Jérémie étaient souvent mises à contribution pour dire le péché du peuple, mais aussi, paradoxalement, l'espérance. Et donc, c'est assez impressionnant de lire dans ces premiers chapitres, donc 2 et suivants, comment le peuple se détourne de Dieu. Et je voudrais prendre une autre métaphore qui est très belle et qui peut-être choquera un petit peu moins nos auditrices. Alors, il doit y avoir quelques femmes qui écoutent la radio. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Enfin, voyez, si vous êtes féministe, ne lisez pas toute seule le livre de Jérémie, parce qu'il y a des passages qui vont vous faire mal au cœur.
Ça peut être redoutable.
Dans Jérémie, chapitre 2, le Seigneur lui-même se lamente parce que le peuple d'Israël l'a abandonné. On a ça au verset 11, vous voyez. « Une nation change-t-elle de Dieu ? Or, ce ne sont pas même des dieux. » Il faut expliquer que l'idolâtrie est extrêmement répandue à l'époque. Hein. Jérémie en parlera, il n'est pas seul. « Et mon peuple, dit Dieu, a échangé sa gloire contre l'impuissance. » On pourrait dire aussi contre la vanité, contre des choses qui ne valent rien, finalement. Les idoles sont souvent identifiées dans l'Ancien Testament à une espèce de buée, quelque chose qui n'a aucune consistance, parce qu'en fait, ça ne vaut rien, tout simplement. Et on a cette très belle image au verset 13 du chapitre 2. C'est le Seigneur qui parle, hein. « Car mon peuple a commis deux crimes. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. » Citernes lézardés qui ne tiennent pas l'eau. Vous voyez, chers auditeurs, vous voyez, Nathalie, l'ironie qu'il y a dans ce reproche. C'est le Seigneur qui dit, en fait, « Moi, je suis la source des eaux vives. » On retrouvera ça, par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, vous voyez, où Jésus est celui de qui doit jaillir l'eau vive qui est l'Esprit. Bon, je reviens à l'Ancien Testament. Le Seigneur dit dans Jérémie 2, 13, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils ont ajouté ce deuxième méfait de se creuser des citernes. » Alors, on voit bien que si on a la source des eaux vives à proximité, à quoi sert-il de se creuser des citernes? Mais en plus des citernes, où au bout d'un moment, l'eau risque de croupir, en plus, ce sont, dit Dieu, des citernes lézardées. C'est-à-dire, imaginez, on a des vases, on a des conteneurs, on a des vasques pour retenir l'eau, mais finalement, il y a une fuite, ou il y a des fuites. Et donc, en fait, même l'eau qu'on voulait stocker ne va pas pouvoir rester dans le contenant. Et donc, à travers cette ironie et un certain nombre de métaphores, qu'il y a aussi un autre ouvrage savant, parmi bien d'autres, hein, qui parle des métaphores de Jérémie. On a la chance qu'il soit en français. En tout cas, on a vraiment toutes ces métaphores qui disent l'apostasie, l'infidélité d'Israël. Et je crois que c'est vraiment un thème qu'on ne peut pas passer sous silence quand on lit le livre de Jérémie. Est-ce que vous permettez qu'on lise ensemble, rapidement, cette belle image de Jérémie qui descend chez le potier, sur l'ordre de Dieu, avec de très belles choses et aussi l'annonce, en fait, du refus du peuple. Voilà, je vous invite, pour ceux qui ont une Bible, à tourner les pages de votre Bible. Et donc, c'est au début du chapitre 18 où
donc
on a ce passage.
Donc, on quitte le premier chapitre de Jérémie, le deuxième, et puis on va un peu plus loin avec...
On est au chapitre 18, et je crois que ça va
si
ça nous permettre...
ça peut donner aussi le goût de relire. Le but de ces émissions autour de Jérémie avec vous, Père Cyprien, c'est de donner un peu, d'éveiller, peut-être éveiller, voilà. Ouvrir à nouveau cette Bible, l'Ancien Testament, relire les prophétesses également, voilà, mais en particulier. Donc, on vous écoute avec ce chapitre 18.
Parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur en ces termes. « Debout, descends chez le potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour. Mais le vase qu'il fabriquait était manqué, comme cela arrive à l'argile dans la main du potier. Il recommençait alors et en faisait un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. » Si vous le permettez, je m'arrête ici d'abord à ce verset 6. Oui. On pourra peut-être, si on a le temps, regarder la suite du texte qui est plus difficile.
En tout cas, on peut lire plus tard aussi, après cette émission.
Sinon, les auditeurs pourront lire, c'est chapitre 18.
Et moi, j'invite les auditeurs aussi à reprendre ce livre, à relire, méditer la parole.
Il y a nombre de thèmes du livre de Jérémie sont présents ici. Vous voyez, ça commence par la parole du Seigneur qui a toujours l'initiative.
Oui.
Et dans la vie des prophètes, c'est manifeste. À part peut-être chez le prophète Élie une fois ou l'autre, on a vraiment l'impression que ces gens...
Un autre beau prophète
sont, voilà,
aussi.
C'est magnifique.
Un grand prophète, le prophète Élie, oui.
C'est splendide. Et puis les amis du Carmel, notamment, le fréquentent.
Oui,
mais alors, avec Jérémie, on est sur une autre montagne. Et le Seigneur lui dit de descendre chez le potier.
Ouais.
Il descend chez le potier et voit quelque chose de très simple et d'insignifiant en apparence. C'est le métier du potier, donc ça n'est pas insignifiant, bien sûr. J'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps d'un potier qui aime beaucoup lire le livre de Jérémie. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec lui.
Donc on peut le saluer.
Voilà, on le salue, j'espère qu'il entendra ces mots. Et alors, le potier travaillait au tour, ou à la double pierre, dit le texte hébreu, « Ralha Ovnaïm ». Soit dit en passant, les rabbins commentent souvent en disant « le tour », la double pierre, pour des raisons techniques, voilà, on travaille avec une double pierre, c'est aussi le siège de la femme qui est en train d'accoucher. Et ça n'est sans doute pas par hasard, puisque en fait, cette expression ne veut dire que cela. Le tour du potier et le siège de la parturiente, parce que, évidemment, dans le façonnage de l'argile, il y a aussi, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans le sein maternel, il se produit comme une espèce de façonnage par Dieu, comme un modelage de ce qui va devenir un être humain et qui est appelé par lui, en l'occurrence pour Jérémie, à être un prophète. Et c'est très impressionnant.
Et donc on est dans la création.
Voilà, c'est vraiment la création. C'est d'ailleurs, le vocabulaire est très proche. On utilise souvent ces mots-là. Le vocabulaire de la création est relativement riche en hébreu, puisqu'il y a le mot créer, mais il y a aussi le mot faire et le mot façonner qui sont utilisés. Donc créer, c'est bara, l'un des premiers mots de la Bible.
Ouais.
Faire, rasa. Et ici, façonner, yatsar, qui a donné aussi au participe présent le mot de potier ou d'artisan. C'est-à-dire le potier, c'est celui qui façonne, littéralement le modelant, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc en fait, toutes ces notions résonnent ensemble et leurs harmoniques enrichissent notre lecture du texte biblique. Voilà que le potier, donc le façonnant, le créant, on pourrait dire aussi d'une certaine façon, était en train de travailler autour. Et alors, que se passe-t-il? C'est très, très optimiste comme lecture. Alors, ça détonne un tout petit peu dans le livre de Jérémie, mais c'est donc, nous sommes au chapitre 18, versets 4 à 6, et on voit que le potier a assez de savoir-faire pour que, quand le vase était manqué, je crois qu'il faut traduire comme cela, quelquefois dans nos Bibles, il y a écrit « le vase qu'il fabriquait fut manqué ». Ce n'est pas exactement ça que dit le texte hébreu, c'est « quand le vase qu'il fabriquait était manqué, eh bien, il recommençait, le potier, et en faisait un autre vase avec cette belle expression « ainsi qu'il paraissait bon au potier ». Exactement, l'hébreu dit « comme il était juste aux yeux du potier ». Et donc, on comprend que le potier, qui est un bon artisan, c'est façonner l'argile, y compris si le vase est manqué. Et si vous avez vu travailler un jour un potier, vous savez que ça ne réussit pas à tous les coups. Le potier réussit à faire un bon vase. Et on passe tout de suite après à l'interprétation théologique. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait, spirituellement, ce qu'a vu Jérémie a un sens extrêmement réconfortant pour nous. D'ailleurs, on a souvent en tête le cantique. Je suis sûr que certains auditeurs le connaissent. Vous voyez, comme l'argile se laisse faire, etc.
Dans les mains agiles du potier. Aussi,
voilà, il y en a beaucoup.
Oui, beaucoup de chants aussi autour de.
Et vraiment, le Seigneur prend appui sur ce que Jérémie a vu pour dire qu'il est capable d'agir envers la maison d'Israël comme le potier fait avec l'argile. En fait, Dieu est non seulement le créateur, mais il est aussi celui qui conduit l'histoire. Et il est capable, même si Israël se rebelle, et nous en avons parlé, même avec un peuple apostat, il est capable de faire un beau vase, entre guillemets, métaphoriquement, ça signifie ça, de mener l'histoire à bonne fin.
Du début à la fin.
C'est extraordinaire.
C'est lui qui conduit
voilà. Il façonne au début et il conduit le peuple jusqu'à la fin. Et c'est vrai pour chacune de nos histoires personnelles.
Et au fond de toutes les époques. Hein.
Mais c'est vrai pour l'histoire du monde aussi.
L'histoire du monde.
Voilà, le projet divin ne connaîtra pas l'échec, vous voyez, malgré toutes les résistances de la liberté humaine. Elle est réelle, cette liberté. Et les résistances sont réelles, et nous en sommes témoins, y compris dans notre propre vie.
Les résistances collectives et individuelles.
Mais bien sûr, bien sûr. Alors, vous voyez, il faut lire ce chapitre 18 de Jérémie. Après, ça devient un peu plus difficile, et puis le Seigneur insiste justement, et Jérémie le transmettra, insiste sur le refus du peuple, mais je voudrais ne pas terminer sans évoquer la Nouvelle Alliance, si vous permettez, parce que c'est aussi un thème tellement important.
Dans cette deuxième émission où nous vous avons consacré un peu de temps à ce prophète Jérémie, terminer sur cette note de cette Nouvelle Alliance. Et ça sera la conclusion aussi de ce deuxième volet de Vivante Église avec le prophète.
Les auditeurs chrétiens, je pense qu'il y en a un certain nombre, sont familiers des paroles de Jésus à la dernière scène sur la coupe, notamment dans la version de Saint-Luc au chapitre 22 et dans la première lettre aux Corinthiens, dans ce qu'en dit Saint-Paul, puisque Jésus parle du sang ou de la coupe, de la nouvelle alliance. Et cette expression nouvelle alliance ou alliance nouvelle ne se trouve qu'une seule fois dans tout l'Ancien Testament, et c'est ici, dans le livre de Jérémie, dans le passage que je vais vous lire rapidement.
Rappelez-nous peut-être
Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31 et suivant. On est vraiment, sans doute plutôt à la fin, mais quelque part c'est le cœur, de cette annonce heureuse que le Seigneur transmet par le ministère du prophète Jérémie. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » En hébreu, Berit Hadasha. Ensuite, je résume. Ce n'est pas une alliance comme celle qui a été rompue par les pères au temps de l'Exode depuis l'Égypte, mais le Seigneur va conclure une alliance nouvelle en ce sens que, c'est le verset 33, il mettra sa loi au fond de leur être et il l'écrira sur leur cœur. Avec cette belle formule de l'Alliance qu'on entend dans l'Ancien Testament. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Et on sent que le Seigneur va être connu de tous. On n'aura plus besoin de professeurs. Mais la connaissance de Dieu sera donnée à tous, les petits et les grands. Et j'aime beaucoup la finale du verset 34. On est toujours au chapitre 31 de Jérémie. Tous me connaîtront parce que je vais pardonner leurs crimes et de leurs péchés, je ne me souviendrai plus. On a l'annonce
magnifique
du pardon, une alliance nouvelle. Jérémie transmet cette promesse d'un renouveau total qui se trouvera dite par ailleurs, par d'autres prophètes, dans d'autres textes. Et en fait, c'est merveilleux. On sent que, sans que le Seigneur attende que son peuple fasse le bien, en fait, sans que le peuple se convertisse, il va leur donner gratuitement le don de son amour. Évidemment, pour les chrétiens, cela s'accomplit dans le Christ. C'est pour ça que c'est bien de parler aussi du sang de l'Alliance nouvelle, parce que dans le mystère de Pâques, le Christ accomplit cette promesse que Dieu avait faite par le ministère de Jérémie 600 ans auparavant. Et donc nous avons ces textes dans Jérémie 31 et suivants, qui portent l'espérance d'Israël encore jusqu'aujourd'hui, et qui pour les chrétiens, cette promesse s'est accomplie dans le ministère de Jésus, et en particulier dans sa Pâque, et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous rappelons ces mots. Alors je trouve que c'est beau de dire cela, parce que oui, il y a l'apostasie du peuple, oui, il y a la puissance de Dieu qui conduit l'histoire à bonne fin, mais parmi les nombreux thèmes que nous pourrions aborder, il y a aussi celui-là de la nouvelle alliance, de cette promesse d'un retour après l'exil, qui sera le châtiment du peuple. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Il y en a qui reviendront et il leur donnera d'être proche de lui, de vivre dans sa connaissance, dans son amour. Voilà un peu la bonne nouvelle, si vous permettez que je dise cela comme ça, la bonne nouvelle que transmet Jérémie.
Alors écoutez, moi je trouve que c'est une très très belle conclusion sur ces deux émissions de Vivante Église consacrées à ce beau grand prophète qui était Jérémie, un prophète fidèle, un prophète qui a traversé toutes ces luttes intérieures, tous ces désespoirs, mmh. un prophète d'espérance, un prophète qui montre aussi cette fidélité à Dieu, mmh. un vrai prophète.
Un vrai prophète au milieu des difficultés et des crises qui montre que l'adversité dans sa vie comme dans nos vies n'a pas le dernier mot. En fait, Dieu est vainqueur, Dieu lui donne de sauver sa vie et pour nous qui savons que la vie n'est pas seulement ici-bas, nous voyons jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'où va cette promesse qui est déjà accomplie en Jésus, nous le croyons, nous les chrétiens, ouais. et qui pourtant, nous n'avons pas fini de la recevoir. Voilà, il y a encore de beaux jours devant nous parce que Dieu est fidèle et qu'il n'abandonne pas ceux qu'il a choisis.
Et il n'abandonne pas malgré l'endurcissement des cœurs parfois. Mmh. Lui reste fidèle. C'est le Dieu sauveur qui veut sauver l'humanité entière. Mmh. Père Cyprien Comte, vous étiez donc l'intervenant la semaine dernière et cette semaine dans ces deux vivantes églises. Je rappelle que on peut aussi lire de nombreux ouvrages autour de Jérémie et vous avez travaillé sur l'un d'eux, Vrai et faux prophète, comment discerner. Mmh. Paru aux éditions Parole et Silence, que l'on peut aussi conseiller, plus d'autres lectures aussi autour du livre de Jérémie. Merci.
Merci Nathalie.
Au revoir.